Toutes et à tous. M'entendez bien? Super. Alors, il faut que je parle à la caméra. Donc là, vous voyez bien, super. Jusqu'où je peux aller? Ici. Là, vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez. Ok. J'ai pas prévu de PowerPoint ce matin, donc j'espère que vous avez vos Bibles. Vous êtes à la maison, donc bon, il ne devrait pas y avoir de soucis pour en trouver une, j'espère. Sinon, il faut vite, vite, vite aller en acheter une, ou qu'on vous en offre une, parce que c'est la parole de Dieu et que vraiment, elle est capitale dans nos vies. Ok, on va continuer donc notre parcours de l'évangile de Matthieu. Normalement, vous avez dû lire le chapitre 18 cette semaine. J'ai qu'un chapitre, je suis chanceux. Il y en a qui en ont eu beaucoup plus. Mais bon, c'est un chapitre qui m'a touché personnellement. J'espère que ça sera le cas pour vous ce matin aussi, et que ça a été le cas pour ceux qui l'ont lu cette semaine. Je n'ai pas trouvé le sujet si évident que ça, pour ma part. Ça remet des choses en question. Enfin, ça nous. Mais c'est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit son église. Il enseigne à ses disciples comment doit se comporter cette communauté qu'il est en train de construire. Et alors qu'ils débattent entre eux pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux, les disciples, Jésus intervient et il les enseigne. Le royaume des cieux n'obéit pas aux critères humains. Et au-delà d'utiliser une image, je trouve ça intéressant, il place littéralement un enfant au milieu d'eux. Il le fait physiquement. Il prend un enfant et il le place au milieu d'eux. Il veut marquer leurs esprits. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse ensemble imaginer la scène et voir cet enfant. On est là avec les disciples. Il y a Jésus qui est en face de nous, et puis il prend cet enfant et il le met à côté de lui, et il le place au milieu de nous. J'aimerais vraiment que vous puissiez visualiser ce qui est en train de se passer. On est à côté de Jésus et on va écouter ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous dire pour nous ce matin. Vous êtes avec moi? Super. Alors je vous invite à prendre dans l'évangile de Matthieu, on va lire les 5 premiers versets pour commencer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler le chapitre ensemble et on va regarder ce que Jésus nous dit et ce qu'on peut voir de Jésus au travers de ce texte. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Les disciples ont déjà passé pas mal de temps avec Jésus, ils ont entendu ses enseignements, ils l'ont vu agir, ils l'ont vu faire des miracles extraordinaires, nourrir des foules, ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu chasser des démons, ils ont vu sa compassion qu'il avait pour les foules, ils l'ont vu manger avec des personnes qui étaient rejetées par le peuple. Qu'est-ce qui les amène à discuter entre eux à ce moment-là de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Pourquoi posent-ils cette question à Jésus? Ça n'est pas vraiment expliqué. J'ai cherché, j'ai regardé dans les autres évangiles, mais je me suis quand même posé la question. Peut-être ont-ils été entraînés par l'excitation de ce qui était en train de se passer. Jésus est impressionnant de puissance, comme je l'ai dit, il fait des miracles, il guérit les malades, il chasse des démons, il enseigne les foules avec une sagesse jamais rencontrée jusqu'alors, et il les a choisis, eux. Peut-être ont-ils été pris d'une ambition toute humaine. Ou peut-être il y a un reste en eux de cette espérance que le peuple juif avait d'un Messie qui viendrait avec puissance renverser l'ennemi romain. Et il voulait faire partie de ça. Il voulait une place à côté de lui. Mais une chose est certaine, ils n'avaient pas encore compris complètement comment Jésus agissait au milieu d'eux et que la définition de grandeur était tout autre pour Jésus, était tout autre dans le royaume des cieux. Et Jésus prend un moment pour leur répondre. Il veut les enseigner, il veut leur expliquer. Et il leur dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et comme je l'ai dit, il prend l'enfant, il le met au milieu d'eux, et il leur dit, quiconque se rendra humble comme cet enfant sera plus grand, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans la société antique, l'enfant n'est pas un symbole d'innocence, mais de dépendance. Il représente celui qui n'a ni pouvoir, ni statut, et qui dépend entièrement de ses parents. Et Jésus leur dit, je veux que vous soyez comme cet enfant, que votre attitude de cœur soit pleine d'humilité. Je ne recherche pas la grandeur. Je ne recherche pas des hommes et des femmes qui comptent sur leur statut social, qui comptent sur leur force, qui comptent sur leurs dons, sur leur charisme. On pourrait allonger la liste. Mais je cherche des hommes et des femmes qui dépendent de Dieu comme cet enfant dépend de ses parents. Imaginons un instant. Un petit enfant dans une poussette qui fait la queue dans un supermarché avec sa maman et il y a tous ces gens autour de lui avec des masques. Certains se désinfectent les mains, d'autres gardent leur distance. Et puis il y a ces militaires avec leurs FAMAS qui sont à l'entrée du magasin. Il y a une affiche avec marqué Vigipirate. Et lui, il dort dans ce magasin où il y a du monde, de l'anxiété, de l'inquiétude quant à l'avenir. Pourquoi dort-il? Parce qu'il sait que sa maman est là. Il sait qu'elle veille sur lui. C'est elle qui prend soin de lui chaque jour. Être humble comme un petit enfant, c'est en quelque sorte reconnaître avoir besoin de Dieu dans sa vie. C'est d'être assis dans cette poussette et de croire que Dieu est derrière nous, qu'il veille sur nous, d'être dépendant pour sa vie de lui, comme cet enfant l'est de ses parents. Il nous est parlé de la conversion. La conversion, c'est se retourner, c'est changer d'attitude face au péché, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et si vous l'acceptez comme votre Seigneur, vous allez devoir laisser votre place dans la gouvernance de votre vie. Ce n'est plus vous que vous suivez, pardon, ce n'est plus votre ambition personnelle, humaine, mais c'est Jésus que vous choisissez de suivre, c'est Dieu. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. La grandeur, c'est le monde qui la recherche. Vous, soyez comme des petits-enfants. Ce n'est pas une question de rang qui prime, mais c'est l'attitude de votre cœur qui est importante, à la juste place, dépendant de Dieu, humble et au service des plus petits. Il nous dit « Accueillez-les, car celui qui les reçoit en mon nom, qui reçoit un petit enfant en mon nom, comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et si Jésus demande aux disciples d'être comme ce petit enfant, on comprend que le petit enfant que nous accueillons, c'est un frère, c'est une sœur de la communauté. Il est question de l'Église, entre autres. Je veux que vous soyez comme ça entre vous. Voilà le style de communauté que Jésus nous appelle à vivre. Une communauté où nous sommes serviteurs les uns des autres, où nous considérons celles et ceux qui n'ont pas le même statut social comme dignes d'honneur et d'hospitalité. Cette semaine, j'ai été un peu perturbé par mes beaux-parents. Ils sont dans l'église, donc au centre Martin Luther King, et ils ont un frère qui est tombé malade, qui a attrapé le Covid, mais de manière assez sévère, et il est resté 3 semaines à l'hôpital pour être mis sous oxygène, et il a pu sortir, mais il était très très faible, tellement faible qu'il ne pouvait pas s'occuper de lui, et mes beaux-parents se sont dit, on va le prendre à la maison pour s'occuper de lui. Et donc, quand on a appris ça avec Claudie, on était inquiets, réaction toute humaine, et on s'est dit, ok, il était plus contagieux a priori, est-ce que l'hôpital ne se trompe pas? Est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est des personnes qui sont âgées, qui sont fragiles, et on s'est inquiété pour eux. Mais en y réfléchissant, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché parce qu'ils ont pris soin de celui qui avait besoin. Ils savent que Dieu est là, que Dieu prend soin d'eux, et même s'ils prennent les précautions qu'il faut, à peu près, ils ont pris soin du plus petit. Et j'ai repensé à mes parents. Et mes parents aussi, je me rappelle, dans mon enfance, des fois, on partait chanter à Noël dans des maisons de retraite. Je n'aimais pas ça. Mais ce souci, il y a des personnes qui ont besoin qu'on prenne du temps avec elles, qui ont besoin qu'on passe du temps avec elles. Quand j'étais plus jeune, régulièrement à la maison, il y avait des personnes marginalisées qui étaient à la maison, que les parents accueillaient. Et j'ai entendu dire que dans l'église, c'est en train de se passer. Comment c'est en train de se passer? Et je trouve ça vraiment super. Jésus serre cet enfant dans ses bras et il dit « Celui qui accueille en mon nom, qui l'accueille en mon nom, m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Waouh ! Quand vous faites cela, quand vous vous approchez d'une personne plus fragile, que vous prenez soin de cette personne, c'est comme si vous le faites à Jésus. C'est comme si vous recevez Jésus. C'est comme si vous recevez le Père. Waouh ! Et ce qui est frappant, c'est que les disciples ont un modèle parfait en face d'eux. Il incarne ses enseignements. Si vous voulez comprendre cela, il faut regarder à lui. J'avais envie de vous lire un texte dans Philippiens, au chapitre 2, versets 15 à 17, qui nous dit ceci. Pardon, excusez-moi. Philippiens 2, chapitre, versets 5 à 11. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, il était dans les cieux, et il a tout quitté, et il est venu sur terre. Dans un homme, il s'est humilié, il s'est abaissé, il est allé vers celles et ceux dont personne ne voulait aller. Les gens de mauvaise vie, il a mangé avec eux. Les lépreux, il est allé les voir, il les a guéris. Il s'est abaissé. De son rang de roi, il s'est abaissé. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire au travers de ce passage. Vous voulez être grand dans le royaume des cieux? Faites comme moi ici-bas. Faites comme moi. On continue et on va lire les versets 6 à 14. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alors là, Jésus, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, je trouve. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui détourne une autre personne de sa foi en Jésus-Christ. C'est de ça, entre autres, qu'il est question. Jésus dit qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin. Alors, ce n'est pas un petit caillou, hein, c'est vraiment un gros rocher. Et qu'on le noie au fond de la mer. Il est question ici des pierres d'achoppement. Vous savez, c'est cette grosse pierre que vous tapez dans le pied alors que vous marchez et qui vous fait tomber. Et vous avez mal. Et vous repartez en arrière, vous quittez le chemin que vous étiez en train de suivre. Jésus dit malheur à celui qui est cette pierre, qui fait trébucher. C'est sérieux. C'est sérieux. Et les mots qu'emploie Jésus sont dramatiques. Et je pense que c'est fait exprès, bien entendu, hein. Vous êtes mes disciples, vous devez, comme moi, être des modèles en toutes choses, et notamment par votre attitude face au péché. Fuyez-le dans vos vies. Fuyez-le. Ne vous mettez pas dans des situations qui seront pour vous des occasions de chute. Alors bien entendu, il ne faut pas prendre au sens littéral ce qu'il nous dit Jésus, dans le sens où nous n'avons pas besoin de mutiler notre corps pour nous punir de notre péché. Jésus veut plutôt dire que nous devons être prêts à faire des sacrifices exceptionnels si nous voulons le suivre. Et il l'a déjà dit dans les chapitres précédents, on l'a vu. Jésus avait pris une image similaire en Matthieu chapitre 5, des versets 21 à 30. Et je crois que c'est David qui nous en avait parlé dans un message, si je me souviens bien. Il parlait de la loi. Vous vous rappelez cette parole de Jésus? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Puis un peu plus loin, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Au travers de ça, Jésus voulait qu'on comprenne que nous sommes pécheurs. Il faut qu'on le comprenne. Si on ne comprend pas ça, on est en danger. Si on ne comprend pas qu'on est pécheur, on est perdu. C'est comme s'il y avait une personne qui tombe, qui était dans l'eau, qui était en train de se noyer, mais elle ne sait pas qu'elle se noie. Et puis vous sautez, et vous dites, je vais aller la chercher, je vais la sauver. Vous y allez, vous nagez vers elle, et vous commencez à la prendre, et elle ne comprend pas ce qui se passe, et elle n'apprécie pas ce que vous faites, et elle se débat. Mais si cette personne comprend qu'elle se noie, qu'elle est en danger. Elle vous sera reconnaissante et ne méprisera pas la main que vous lui tendez. Jésus veut qu'on comprenne ça. Et c'est pour ça qu'il mettait l'emphase encore plus forte que ce que la loi mettait, le curseur encore plus haut. Et puis il continue et il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, comme dans le texte qu'on vient de lire. Le remède que Jésus prescrit face aux mauvaises pensées est d'arracher un œil. C'est logique et radical d'une certaine manière. Mais c'est la nature radicale de sa déclaration qui la rend si importante et mémorable. Jésus utilise, je vais faire du français, une figure de style comme connue sous le nom d'hyperbole. C'est-à-dire que c'est une exagération évidente. Je vous donne un exemple. J'attends depuis une éternité. Ou ce sac de course pèse une tonne. Vous avez compris l'idée. Le but de Jésus est de marquer dans nos esprits, de marquer dans nos esprits, pardon, la nature odieuse du péché. Et le péché est toute action ou pensée qui est contraire au caractère de Dieu. Et le résultat du péché, c'est la mort. Donc Jésus veut nous préserver. Il nous met en garde. Et même plus loin, il nous met en garde contre l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas je vais en enfer et puis pouf, ça s'arrête, fin de l'histoire. Ce n'est pas ça. Quand on regarde les textes, c'est des grincements de dents, c'est le feu pour l'éternité. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Quand il dit mieux vaut pour toi entrer dans la vie, il est question ici de la vie éternelle. Il vaut mieux que tu renonces à certaines choses que nous propose le monde et entrer dans la vie éternelle que de tout prendre et de te perdre. Veille à ce que tu places sous ton regard le soir, quand tu es seul, face à ton ordinateur, face à ta télé ou face à ton smartphone. Tu as une décision radicale à prendre. Tu as un choix à faire dans ces moments-là. Et Jésus te dit, fuis les occasions de chute, ne te mets pas en danger. Veille à tes relations. Peut-être y en a-t-il une qui t'entraîne dans des mauvaises décisions, qui te fait faire des choses qui sont contraires au caractère de Dieu. Jésus te dit ce matin, il est peut-être temps de couper cette relation malsaine. Peut-être ça va te coûter, mais il est important que tu fuies le péché, que tu te protèges des occasions de chute. Peut-être il y a des collègues de boulot, quand tu vas avec eux le matin, que tu discutes avec eux, qui vont instantanément commencer à se moquer et dire du mal. Et puis tu te joins à eux. Ne te mets pas dans une occasion difficile. Si tu penses que tu n'auras pas la capacité de les reprendre ou de dire que tu n'es pas d'accord avec ça, ne les suis pas. Vous avez compris l'idée. Quand il est question d'arracher l'œil, d'arracher le pied, c'est fais attention à ce que tu places sous tes yeux. Fais attention là où tu vas, dans les lieux où tu vas, avec qui tu vas, à ce que tu fais. Il y a cette responsabilité, et Jésus nous rappelle cette responsabilité que nous avons face à la tentation, face au péché. Ça va te coûter, mais les perspectives attachées à cela sont glorieuses. Le péché conduit les gens en enfer, et cela fait du péché quelque chose à éviter à tout prix. Jésus dit, quelle que soit la cause de votre péché, en quelque sorte, il dit, prenez des mesures drastiques pour le faire disparaître de vos vies. Et parfois, et je m'inclus, bien entendu, on a naturellement tendance à nous chouchouter et à excuser notre péché. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de cette déclaration choquante et radicale de Jésus, pour nous réveiller de notre complaisance spirituelle parfois. Eh oh Pierre, ce que tu as fait, c'est mal. Ce que tu vas faire, c'est mal. Tu as le choix. Dieu prend le péché au sérieux, à tel point qu'il a sacrifié son Fils unique pour le détruire. Dieu prend le péché très au sérieux. Et tellement au sérieux que ça, qu'il a envoyé son Fils mourir sur une croix. Il l'a sacrifié pour le détruire. Nous devons également prendre le péché au sérieux, mes amis. Prendre des décisions radicales qui s'imposent pour le fuir. Et si malgré ça je tombe, demandez pardon. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Oui, Jésus est mort sur la croix pour le détruire. Oui, quand nous donnons notre vie à Christ, nous sommes délivrés de cette condamnation qui pèse sur nos épaules face à notre péché. Mais oui aussi, Dieu nous appelle à marcher en nouveauté de vie. Dieu nous appelle, Dieu nous a libérés des péchés et il nous appelle à fuir la tentation. Il nous est dit au verset 11, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Et il nous est dit aussi en Luc 15, verset 7, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. En tant que disciples de Jésus, réalisons que Jésus a vaincu le péché et apprenons à marcher avec lui en nouveauté de vie. Soyons pertinents pour celles et ceux qui sont autour de nous. Soyons pertinents pour celles et ceux qui nous côtoient, nos voisins, nos collègues de boulot, nos copains de classe. Vivons ce que nous prêchons. Et si nous tombons, demandons pardon, relevons-nous et continuons d'avancer. Voilà ce que Jésus nous appelle à faire, voilà comment il nous appelle à vivre au travers de ces versets. On continue et on va lire les versets 15 à 20. Il est toujours question du péché. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et maintenant, Jésus nous enseigne comment nous comporter face au péché dans l'Église. Je vois beaucoup d'amour dans la progression que Jésus donne pour reprendre un frère. Seul à seul, d'abord. Seul à seul. Et s'il ne t'écoute pas, avec deux ou trois témoins. Deux ou trois frères. Et s'il ne t'écoute pas, avec l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. La communauté est invitée à se dissocier de la personne qui persiste dans le péché, c'est-à-dire à considérer qu'elle ne fait plus partie du groupe des disciples. Mais il ne s'agit pas du tout de la mépriser, mais de la considérer comme un pécheur qui a besoin d'entendre à nouveau l'Évangile. De la considérer comme un pécheur qui a à nouveau besoin d'entendre l'Évangile. Avec qui est-il dit que Jésus mangeait? Avec les païens, avec les péagers. Rappelez-vous, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il nous faut être intraitables avec le péché. Il y a des péchés qui sont lourds de conséquences et que nous devons gérer. Et en tant qu'Église, on a eu à faire face et on a à faire face à ce genre de situation. Et on a des décisions à prendre. On a des choix à faire dans l'amour, dans la vérité. Et puis il y a ces versets 18 et 20 que je trouve extraordinaires. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut comprendre ces paroles dans le contexte dans lequel elles sont données par Jésus. Il s'agit de régler un différend dans l'Église. Il s'agit de régler quelque chose de plus ou moins grave, de grave, je pense, dans l'Église. Et Jésus nous dit, je suis au milieu de vous pour vous aider à gérer ces situations difficiles. L'amour et la sagesse de Jésus doivent nous aider à conduire ces temps d'échange et de décision. Il nous faut lui demander d'être là et être à l'écoute de ce qu'il est, de ce qu'il dit et de ce qu'il révèle. Et si la personne est repentante, nous devrons l'accueillir à nouveau. Elle est déliée du péché qui la retenait prisonnière. Jésus va placer son sceau sur la décision qu'on prendra, frères et sœurs, dans l'Église. Et si la personne n'est pas repentante, elle reste liée par son péché jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle a besoin de demander pardon pour en être délivrée. Vous vous souvenez l'image de la personne qui se noie. Cette personne n'a pas compris qu'elle fait fausse route. Elle n'a pas compris que ça, ce qu'elle fait, c'est pas bon. Et elle a besoin de le comprendre. Elle a besoin de comprendre ce que Jésus a fait pour elle à nouveau. Et Jésus, en quelque sorte, il nous dit « Je ne vous laisse pas seul pour gérer ça. Moi, le Dieu de justice et de grâce, je suis avec vous. Moi, le Dieu de justice et de grâce, je suis avec vous. » On continue ? Et on va lire les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, pardonnez, ok, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Parce que ma patience. Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui demanda un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à cause de son frère de tout son cœur. Waouh ! C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il est évident ici qu'il est question du pardon, bien sûr. Il est question du pardon. Il y a cette question de Pierre. Ok, on doit gérer le péché, mais jusqu'à combien, jusqu'à quand je peux pardonner? Et Jésus lui répond, pas 7 fois, mais 7 fois, 77 fois. Et il veut faire prendre conscience de ce dont il a été pardonné, lui. Je me suis posé la question, mais en définitive, c'est quoi le pardon? Et j'ai cherché un peu et j'ai trouvé un commentaire. Une définition intéressante qui peut nous aider à comprendre ce que c'est et jusqu'où ça va. Quand pardonnons-nous aux autres? La réponse, c'est lorsque nous luttons contre toute pensée de vengeance. Lorsque nous ne faisons pas de mal à nos ennemis, mais que nous leur souhaitons du bien, que nous sommes attristés par leur situation, que nous prions pour eux, que nous cherchons à nous réconcilier avec eux et que nous nous montrons prêts en toute occasion à les soulager. Et cette définition est très biblique. Chacune de ces parties provient d'un passage de l'Écriture. Résistez aux pensées de vengeance. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Ne cherchez pas à leur faire du mal. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Souhaitez-leur du bien. Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Soyez attristés par leur situation. Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il t'ébruche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Priez pour eux. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cherchez à vous réconcilier avec eux. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez toujours prêts à leur venir en aide. Exode 33, verset 4. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu lui ramèneras. Voilà le pardon dont il est question quand Jésus dit en Matthieu 15, verset 35, si tu pardonnes à ton frère de tout ton cœur. Cela peut prendre du temps, mais l'intention doit être là. Jésus nous dit, tu dois pardonner de tout ton cœur. C'est pas toujours facile. Le pardon, c'est pas l'absence de colère face au péché. La colère contre le péché et ses horribles conséquences est normale et légitime. Mais nous n'avons pas besoin de nous y accrocher d'une manière vindicative en souhaitant nuire à celui qui nous fait du tort. Il nous faut remettre notre colère à celui qui est juste et qui juge avec justice. Encore et encore, et prier pour la transformation de la personne qui nous a fait du tort. Le pardon, ce n'est pas l'absence de conséquences pour le péché. Si la personne qui a péché est repentante, Jésus est fidèle et juste pour lui pardonner. Elle sera pardonnée. Et l'Église va apporter ce pardon. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'aura pas à assumer les conséquences de son péché. Si je vois une jolie guitare dans une vitrine qui me fait plaisir et que je vais la voler, et puis qu'ensuite je confesse ce que j'ai fait, si je serai jugé pour ce que j'ai fait. Pareil, si j'ai un ami qui me fait confiance, qui me demande de faire quelque chose et que je lui mens à répétition en lui faisant croire que j'ai fait ce qu'elle m'a demandé et qu'en fait je ne l'ai pas fait, et puis qu'elle s'en rend compte, je vais demander pardon, elle va me pardonner, mais la confiance a été trahie, il va falloir du temps à cette confiance pour être restaurée. Il y a des conséquences à nos actes. Il y a des conséquences. Et le pardon, ce n'est pas l'absence de conséquences. Mais Jésus nous appelle à pardonner de tout notre cœur, à estimer la personne qui nous a fait du tort, à prier pour elle, à continuer de l'aimer. Dans la parabole que Jésus donne du serviteur impitoyable, Jésus nous montre combien nous lui sommes redevables et combien nous devons faire grâce et pardonner à notre tour. Il est question de talents et de deniers. Il est question de 10 000 talents et d'un autre côté de 100 deniers. Et alors j'ai regardé un petit peu dans les commentaires, et en fait un talent, c'est 6 000 deniers. Donc le roi fait grâce de 60 millions de pièces d'argent, 60 millions de deniers. Le denier, un denier qui était le salaire journalier d'un ouvrier agricole, 60 millions. Et puis la personne à qui on le gracie de ces 60 millions, elle va renoncer à gracier son serviteur de 100 deniers. 60 millions, 100 deniers. L'échelle est effarante. Il y a vraiment une invitation du Seigneur à pardonner de tout son cœur. Annuler une dette et en assumer le coût va parfois provoquer des souffrances, mais cette parabole montre que ne pas pardonner a un prix bien plus élevé que ce qu'exige le pardon. Bien plus élevé. Un officier turc a réalisé un raid et pillé une maison arménienne. Il a tué les parents et donné les filles aux soldats, gardant la fille aînée pour lui. Quelque temps plus tard, elle s'est échappée et a suivi une formation d'infirmière. Au fil du temps, elle s'est retrouvée infirmière dans un service d'officier turc. Une nuit, à la lueur d'une lanterne, elle vit le visage de cet officier. Il était si gravement malade que sans soins exceptionnels, il serait mort. Les jours passèrent et il se remit. Un jour, le médecin se tenait près du lit avec elle et lui a dit « Si elle ne te consacrait pas tout son temps, tu serais mort. » Il l'a regardée et lui a dit « Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ?»« Oui, dit-elle. Nous nous sommes déjà rencontrés. Pourquoi ne m'as-tu Ne m'as-tu pas tué? Lui demanda-t-il. Et elle a répondu, je suis une disciple de celui qui a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Le chrétien, l'Église, ne peut faire l'économie de l'humilité et du pardon si elle veut accomplir la mission que Jésus lui a donnée. Elle n'a pas de temps à faire obstacle à ceux qui se confient dans le Seigneur, mais elle devrait aller chercher toutes celles et ceux qui se sont éloignés du berger des brebis. Jésus doit être notre modèle par excellence. De roi qu'il est, il est descendu des cieux, non pour être servi, mais pour servir. Il s'est abaissé, il s'est fait l'ami du plus petit, des pauvres, des péagés, des rejetés, de ceux qui n'étaient pas considérés. Il les a aimés jusqu'à endurer la souffrance, la douleur, la moquerie, les coups, les blessures, jusqu'à donner sa propre vie. Il a littéralement sacrifié sa vie pour toi, pour moi. Il l'a fait pour que tu puisses être pardonné, pour racheter ta dette. Il a payé une fortune incalculable. Il l'a payé de sa vie. Il l'a fait parce que la volonté du Père, qui est dans les cieux, est qu'il ne se perde un seul de ses petits. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Voici Jésus. Voici le roi serviteur, celui qui nous éclaire sur notre péché, celui qui donne sa vie pour nous racheter, celui qui pardonne, celui qui nous enseigne à faire de même, à avancer avec humilité en considérant l'autre comme digne d'honneur, à être serviteur du plus faible, prêt à parler avec vérité, prêt à parler avec vérité et à pardonner. Ce que Jésus a enseigné, il l'a démontré chacun des jours de son ministère sur terre. L'humilité et le pardon, notre attitude face au péché doivent caractériser la vie de celles et ceux, de celles et ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus. Je répète, l'humilité et le pardon, notre attitude face au péché doivent caractériser la vie de celles et ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Je pense que cet enseignement de Jésus ne doit pas nous laisser indifférents. Je pense qu'il nous amène individuellement chacun à nous poser et puis à nous questionner face à nos propres vies. Où est-ce que je me place? Est-ce que je me place à la bonne place? Est-ce que je suis dépendant de Dieu? Est-ce que c'est moi qui gère ma vie ou est-ce que je fais confiance au Seigneur pour gérer ma vie? Est-ce que je suis comme ce petit enfant qui fait confiance à son Père céleste pour sa vie? Est-ce que je suis celui comme Jésus qui n'est pas là pour être servi, mais qui est là pour servir et qui va prendre soin du plus faible, qui va ouvrir les yeux et qui, comme Jésus, va être rempli de compassion? Il va aller vers celui qui a besoin, vers cette brebis qui est perdue, cette brebis qui s'est égarée. Où j'en suis face au péché dans ma vie? Est-ce que je le fuis? Ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai à lutter? Est-ce qu'aujourd'hui je fais face à des tentations auxquelles je cède? Je pense que le Seigneur, il nous dit ce matin, c'est le moment de prendre une décision radicale, de t'arracher l'œil, de te couper un pied, une main, de prendre une décision radicale dans ta vie. Peut-être faire des choix qui vont te coûter, mais qui vont te protéger. Parce que le péché est terrible. Parce que Jésus est mort pour le détruire. Et parce que Jésus t'appelle à marcher en nouveauté de vie. Jésus est mort pour toi sur la croix. Il est mort pour détruire le pouvoir du péché dans ta vie. Et il peut t'en délivrer. Et vraiment, je vous encourage cette semaine à prendre un temps pour prier et demander à Jésus, demander au Saint-Esprit de vous conduire dans cette réflexion, dans ce questionnement. Seigneur, éclaire-moi. Je ne veux pas être comme ce noyé qui n'a pas conscience de ce qui se passe. Je veux avoir conscience, peut-être, de choses qui ne vont pas dans ma vie et que tu veux que je règle dans ma vie. Et je sais que tu es fidèle et juste pour me pardonner. Et alors, je vais venir vers toi, je vais te demander pardon. Et peut-être, c'est important de faire cette démarche-là si vous sentez qu'il y a quelque chose dans vos vies auquel vous voulez être libéré, que vous voulez confesser, que vous voulez pardonner, peut-être ne pas le faire seul. Mais moi, je vous encourage à le faire avec quelqu'un. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être un responsable de l'Église, un ami proche. Et vraiment, je vous encourage à le faire avec quelqu'un, qu'on puisse aussi prier avec vous, prier pour vous. que vous puissiez être délié. Il y a cette notion de liberté. Quand on délie quelqu'un, il y a une liberté qui vient. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans l'Église. J'en suis convaincu. Peut-être aussi que le Seigneur ce matin, il t'appelle, il t'encourage à... Où en es-tu par rapport à cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a fait du tort? Est-ce que tu es dans cette démarche de lui pardonner? Est-ce que tu as pris cette décision déjà de lui pardonner? Parce que tu prends conscience à nouveau ce matin combien tu as été pardonné toi-même. J'ai donné ma vie pour toi, nous dit Jésus. J'ai donné ma vie pour toi. Je veux t'accompagner, je veux t'aider maintenant à pardonner la personne qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal. Et pas juste dire, je te pardonne, mais ça va plus loin que ça, à prier pour elle, à la bénir. Peut-être, si tu en as la force, et je pense que le Seigneur pourra te la donner, à chercher à rétablir une relation avec cette personne. C'est ça qui est extraordinaire dans ce que Jésus fait, dans ce que Jésus a fait. Au travers de son sacrifice, au travers du fait qu'il a pris notre péché sur la croix à notre place, qu'il a payé la dette que nous devions, il restaure une relation avec Dieu le Père. Il restaure une relation. Ce n'est pas juste « je te pardonne » et puis « j'entends plus parler de toi », mais il restaure une relation. Il nous permet de venir dans sa présence. Il nous permet de venir avec lui. Il nous permet de le regarder, il nous permet de parler avec lui, de prier, d'échanger avec lui, de compter sur lui. Malgré le mal qu'on a fait, malgré la dette qu'on lui devait, il nous permet de venir dans sa présence. C'est ça le vrai pardon. Et le Seigneur nous appelle à faire de même. Le Seigneur nous appelle à faire de même. Moi, ça m'a posé problème, ce message, cette semaine, quand j'ai lu ce texte, pour ma vie personnelle. Ça remet en question certaines choses, certaines relations avec des personnes que j'ai pu avoir, des blessures que j'ai eues, et j'espère que ça vous encourage aussi à réaliser que le Seigneur veut qu'on aille plus loin. L'exigence de Jésus, elle est très claire dans ce passage. Il ne passe pas par quatre chemins, il donne une image très frappante, très marquante, et c'est volontaire. Parce qu'il veut construire une église, il veut bâtir une église où c'est ça qui se passe, où il y a la parole de vérité et où il y a le pardon, où le péché est traité à sa juste place, où le péché est rejeté, où il est fui, où il est craint, pas craint, il est fui. Où on prend les dispositions qu'il faut pour ne pas se mettre en danger. Les hommes en particulier ce matin, entre autres. On est dans une génération, les jeunes peut-être aussi, où la technologie nous ouvre, à tout ce qui est la luxure, etc. Je pense que c'est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous dans l'Église. Et le Seigneur vous appelle à prendre une décision radicale, à fuir, à faire des choix, à prier, à demander à Dieu de vous aider. J'aurais aimé faire un appel, mais on n'est pas sur place. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça que vraiment je vous encourage à prendre ce temps personnel avec Dieu cette semaine et puis à vous rapprocher de quelqu'un. Si vous avez besoin de partager, si on a besoin qu'on prie avec vous, si vous avez besoin de... C'est difficile, hein, je l'ai dit, des fois pardonner, ça coûte. C'est pas sans, peut-être sans souffrance, ça peut prendre du temps, mais il faut que l'intention soit là. Et on avance jour après jour avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, qui nous fait réaliser, qui nous donne, qui nous rend capable de pardonner, qui donne la force de pardonner. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Merci parce qu'elle est parole de vérité. Merci parce que tu es très transparent, Seigneur Jésus. Tu ne caches pas les choses, mais tu les éclaires avec sagesse, avec amour. Merci de nous faire réaliser ce matin à nouveau combien il nous faut être vigilants, combien il nous faut fuir le péché dans nos vies, combien il nous faut apprendre à marcher en nouveauté de vie, à suivre ton modèle. Seigneur, vraiment, je te prie de nous parler aujourd'hui, Seigneur, de nous parler cette semaine, chacun individuellement. On veut aller plus loin avec toi, Seigneur, on veut être efficace, on veut être des disciples qui qui suivent leur Seigneur, leur Sauveur, et qui portent du fruit, des disciples qui sont zélés. Et on veut le faire avec intégrité. On veut être juste dans ce que nous annonçons, dans ce que nous prêchons. Nous voulons que nos actes reflètent ton action dans nos vies. Et vraiment, on veut rejeter le péché dans nos vies. On veut apprendre à marcher en nouveauté de vie. On veut apprendre à prendre des décisions radicales dans nos vies, à peut-être à faire des sacrifices, à cesser certaines choses, certaines activités, certaines relations, parce qu'elles nous font tomber. Seigneur, je te prie de nous y aider, Seigneur. Je te prie de vraiment nous parler avec clarté, parce que tu veux nous restaurer. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et juste qui pardonne. Merci parce que ton pardon est indescriptible. On ne peut pas le compter tellement il est grand. Et merci parce que ton pardon porte du fruit dans nos vies. Merci parce qu'il n'y a pas de trop grand péché ou trop petit péché. Le péché est le même, quel qu'il soit, et toi, tu es mort sur la croix pour le détruire. Tu es mort sur la croix pour prendre la conséquence de ce péché dans nos vies, pour nous pardonner. Vraiment, on est reconnaissant pour cela, Seigneur. On veut réaliser la valeur de ton sacrifice. Parce qu'on veut réaliser aussi combien c'est important à notre tour de pardonner à celles et ceux qui nous ont fait du tort, à pardonner à nos ennemis, à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, peut-être dans notre chair, peut-être dans notre âme, qui nous ont blessés, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait souffrir. On veut leur pardonner, Seigneur. On veut que tu nous donnes la force d'aller jusqu'au bout de ce que toi tu as fait, Seigneur. Donner ta vie pour restaurer cette relation avec toi, avec Dieu le Père. On veut que tu nous donnes la force de pouvoir les bénir, de pouvoir prier pour elles, de pouvoir avoir de la compassion, pas de nous réjouir, pas de rechercher la vengeance, mais d'avoir de la compassion pour elles, d'avoir de l'amour pour ces personnes. Peut-être la relation ne reviendra pas. Mais je veux faire ma part du chemin. Je veux faire ce que tu m'appelles à faire de tout mon cœur. Je veux pardonner. Merci pour ta compassion, Seigneur. Je te prie de nous donner ta compassion pour celles et ceux qui se perdent autour de nous. Je te prie d'ouvrir nos yeux, Seigneur. D'ouvrir nos yeux, de ne pas chercher notre confort, mais de regarder celles et ceux qui ont besoin de toi, de trouver ces brebis qui sont perdues, d'aller les voir, de se mettre à leur niveau, d'aller les servir, d'aller leur faire du bien, d'aller les réconforter, d'aller les bénir, d'aller leur parler d'un sauveur qui les aime, d'aller prier pour elles, d'aller les guérir. Par ta puissance, en ton nom, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pour ton action dans nos vies. Merci pour ton action dans l'Église. Amen. Amen.